tous, bienvenue sur les ondes des radios associatives, auditrices, auditeurs. Et bien, nous sommes installés sur le plan ici à Sumel pour la 29e édition des Trans Cévenoles. Et oui, bientôt 30 ans. Alors Radio Escapade est installée avec Radio Bartas, Ben qui sera en technique avec Campus Montpellier, Élise qui est là à côté de moi. Salut Élise.
Salut.
Et Hugues pour Radio Système, juste à côté aussi.
Comment vas-tu ?
Ça va. Ça va, ça va. On a eu un petit bug technique pour commencer, mais ça va.
Ah, mais c'est toujours ça, le premier plateau radio, on est sur des plâtres, donc il faut savoir qu'on est en direct. Donc du coup, les aléas techniques, ça fait partie. Puis c'est la chaleur aussi, le matériel, il souffre. Hein.
Exactement, on est une partie au soleil, effectivement. Alors nous sommes en direct, comme vient de le dire Hugues, sur toutes les fréquences de ces radios associatives. Alors pour la première émission, parce qu'on se retrouvera également à 17h30 tout à l'heure, au programme, on aura Pierre Valette qui évoquera avec nous la parade à vélo. On aura la compagnie La Colombe enragée avec le spectacle Le Prénom. On aura Guillaume Brouillet, à chaque fois je me trompe, pour le documentaire Mon oncle Griffon. La compagnie Fatras pour le spectacle À l'épreuve des pavés. Mais bien sûr, le rituel, on démarre toujours cette première émission ici à Sumen avec Sébastien Toureil. Donc Sébastien Toureil qui est directeur artistique, directeur, je ne sais plus, pour les Elvis Platinés. Comment ça va, Seb ?
Bonjour, ça va plutôt bien.
Alors, les Trans-Cévenoles, le festival est ouvert. Hein. On a eu tout à l'heure ici sur le plan la parade à vélo qui est arrivée. Et puis ensuite, on a eu la fanfare des Cadors qui viennent à peine d'arrêter il y a à peu près 10 minutes. Bon, ben voilà, comment est-ce qu'on se sent à cette ouverture-là, démarrage, début d'après-midi ?
Ben, ça y est, c'était déjà une bonne matinée pour les derniers calages, les dernières installations. Les accueils d'artistes qui sont venus commencer à s'installer sur les différents sites de spectacle, etc. Et ça part plutôt bien. On a vu qu'on avait un peu de monde pour les Cadors. Là, il y a un peu de monde actuellement sur le premier spectacle de rue de la compagnie Soupape. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite de la journée. Donc là, tout le monde est à pied d'œuvre, souriant, c'est parti quoi.
Alors justement, on va un petit peu parler de ces gens qui sont partout là à Sumen. Comment ça s'est passé pour cette 29e édition en termes de préparation, en termes de bénévoles, en termes d'habitants aussi de Sumen, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils comptent. Voilà un petit peu quelques mots quand même sur la prépa.
La prépa, elle a démarré il y a quelques mois maintenant. Alors, sur les recrutements du bénévolat, etc., ça s'est lancé, on va dire, au mois de mai, avec les premières inscriptions bénévoles. Et donc, jusqu'à ce matin, on a à peu près, je ne sais plus exactement, mais on a plus de 25 équipes, près de 200 bénévoles qui sont là pour faire tourner le festival. Parce qu'il y a énormément d'équipes, là, rien qu'autour de nous, on a les stands resto, la buvette, la régie rue, le merchandising, l'accueil public, etc. La gestion du parking, c'est pas mal de monde. Ça s'est pas trop mal passé, après, on sent qu'il faut aller chercher les gens. Voilà, on parle de crise du bénévolat. Je ne dis pas qu'il y a une crise du bénévolat au Trans-Cévenoles, mais je pense qu'il y a certaines équipes cette année qui ont pu être un peu fragilisées parce que une à deux personnes manquantes par-ci par-là, ça rajoute du taf aux autres. Quoi. Donc c'est un vrai travail de fond. Et on a une équipe qui est là pour ça, notamment ma collègue Carmen qui est en charge de tout ça.
Ouais, justement, je me disais là, donc on est quand même 29e édition, l'année prochaine on fêtera les 30 ans ici même. Justement, je me disais, au bout de 29 ans, est-ce que ce rapport justement aux bénévoles qui sont hyper importants pour un festival comme les Trans-Cévenoles, comment est-ce qu'on arrive à se renouveler ? Est-ce que justement on met de nouvelles choses en place ? Bon, tu viens de le dire que cette année, vous êtes allé un peu chercher, mais justement, comment tout ça se renouvelle au bout de 29 ans quand même ?
Ça se renouvelle de différentes manières. Disons que nous, on a quand même à la base un accueil du bénévole, qui est structuré. Parce que les gens ne se rendent pas compte de tout le backstage en fait, de l'organisation du festival, mais on a le l'espace du Diguedan, sur lequel il y a un catering, on fait manger tout le monde. Il y a des espaces de repos, de détente, dans des salles climatisées, à l'accueil collègue. On a des bénévoles qui sont au service des bénévoles. On a des espaces pour pouvoir boire un coup, faire la sieste, etc. On essaie de les héberger, alors quand on peut, chez les uns, chez les autres. Mais sinon, on a des espaces camping où ils peuvent se poser. On a des temps de convivialité aussi qu'on a créés au fil des années et qui leur sont exclusivement dédiés. Notamment la soirée du vendredi où il y a le discours du conseil d'administration, etc. On offre l'apéritif. Il y a un petit guide du bénévole qui est édité spécialement, qui leur est distribué. Donc voilà, c'est toute une série de mesures qui sont mises en place pour les accueillir et pour qu'ils se sentent au mieux en fait pendant l'exploitation du festival. Quand je dis exploitation du festival, c'est les deux jours où on accueille du public, mais c'est aussi les quelques jours en amont et les quelques jours après pour le montage et le démontage. Donc on essaie de prendre soin d'eux au maximum. Et puis après, ça se fait assez naturellement finalement, parce que nous, on communique sur nos réseaux, sur les sites internet, à droite à gauche, pour dire qu'on recherche du bénévole. Donc on va avoir du bénévole historique qui est toujours là à la 29e édition. Mais après, on a quand même un renouvellement continue. Chaque année, on a de nouvelles personnes qui viennent, soit parce qu'ils ont entendu parler du festival, soit puisqu'ils sont venus en public et donc ils se sont dit c'est chouette, on a envie de participer. Et ce qui fait que, alors je n'ai pas de pourcentage à donner, mais on a quand même un bon équilibre entre nouveaux bénévoles et bénévoles plus anciens. Voilà.
Merci Seb, ça me paraissait important de démarrer avec le bénévolat, cette première émission. Alors on va partir un petit peu sur la programmation musicale. Donc bon, ici ce soir sur le plan, on a à nouveau à 18h30 les Cadors, suivi à 19h15 de l'Orqué et l'ouverture des portes du parc Lucie Aubrac avec Yuna Foster à 21h, Catégorique à 22h20 et à minuit Antès et Mazès. Alors comment est-ce que tu nous construis un petit peu cette programmation d'année en année?
C'est un ensemble de choses. Alors moi, mon job, c'est d'aller voir des spectacles, d'assurer la programmation du festival. Donc à ce titre-là, toute l'année, moi, je vais voir des spectacles en région ou sur des festivals dédiés, par exemple sur les arts de la rue. Je suis présent à Aurillac, qui est un peu le passage obligé. Je suis présent sur des festivals en région aussi, à Montpellier, à Toulouse ou ailleurs. Pour la partie musique, je me déplace aussi sur certains festivals en France. J'ai pu aller sur Bourges ou à Marseille au Babel XP sur les musiques du monde. Voilà, différents endroits comme ça. Et donc c'est avec ça que je construis la programmation. Après, je suis souvent sollicité par des équipes artistiques de la région, des groupes, des compagnies qui viennent me présenter leurs projets ou alors qu'on a envie d'accompagner à ce titre-là. Après, je me nourris beaucoup aussi de ce que vont voir les bénévoles de l'association, qui sont des prescripteurs, des prescriptrices, parce que par exemple quand je suis sur Aurillac, je sais qu'il y a à peu près une quinzaine de bénévoles qui sont aussi sur Aurillac, donc on se partage nos coups de cœur, etc. Donc ça, je suis très attentif à ça aussi, et c'est pareil pour la musique, donc ça se construit de cette manière-là. Après, on essaye de fixer un peu des objectifs, c'est-à-dire que généralement c'est sur le conseil d'administration de la rentrée, celui de septembre, où on fait le bilan et on se projette sur l'édition d'après, où je propose au conseil d'administration, je leur dis voilà, au regard de comment ça s'est passé cette année, je propose de réajuster un peu sur tel style artistique, etc. C'est ce qu'on a fait par exemple cette année, où on est revenu un peu sur un format qu'on avait testé il y a 2-3 ans, avec une soirée du samedi plutôt orientée rap hip-hop, électro-pop urbaine, quoi. Ce qui nous permet de nous adresser à un certain public. Et puis le deuxième soir, on a HK, c'est un artiste historique du festival, qui est un marqueur un peu des années 2000, et donc c'est aussi une façon de s'adresser à ce public-là. Parce que l'enjeu aussi des Transsevenols, il est là, c'est que là, c'est la 29e édition. Il faut toujours être en capacité de se renouveler, quoi. Ça, c'est hyper important, et de renouveler les publics du festival, quoi.
Merci Sébastien. Alors, il y a aussi une action qui est hyper importante hein, pour les Transsevenols, c'est le tremplin. Voilà, qui existe déjà depuis quelques années, où le lauréat ou la lauréate de l'année ouvre justement la grande scène au parc Lucie Aubrac. Et cette année, c'est donc Youna Foster. Est-ce que, au-delà de parler de l'artiste, est-ce que tu peux un petit peu nous dire pourquoi c'est si important pour les Transsévenols de maintenir ce tremplin ?
En fait, c'est une histoire. C'est-à-dire que les Transsévenols, elles se sont développées dans les années 2000 avec cette capacité d'accueillir des têtes d'affiche et à côté de ça, de proposer une programmation découverte d'artistes émergents, intermédiaires, etc. En 2012, on a décidé d'arrêter les têtes d'affiche parce que le milieu de la musique avait évolué, l'économie n'était plus la même et qu'on ne s'y retrouvait plus. Et donc, on a souhaité à ce moment-là réorienter la programmation du festival vers les artistes émergents, intermédiaires. Et c'est dans cette volonté-là qu'on a souhaité créer le dispositif de repérage. C'était un outil parmi d'autres sur cette réorientation artistique des Transsévenols et donc du coup dès le début en fait c'était une période où Paloma émergeait et commençait donc à créer des partenariats aussi sur le territoire départemental et donc ils ont été partie prenante dès le début. Donc on a créé comme ça ce dispositif à l'échelle de la région Languedoc-Roussillon à l'époque et puis après avec la création de la grande région Occitanie on a tout de suite ouvert aux autres départements. Il y a Victoire 2 qui est venu se rajouter au partenariat et maintenant c'est cool parce que ce dispositif il a une vraie visibilité puisque il y a près de 130 candidatures qui ont été reçues cette année et puis c'est surtout l'idée de sortir de la simple logique de diffusion mais d'aller vers une vraie perspective d'accompagnement des projets quoi. C'est-à-dire que l'artiste lauréat il va bénéficier d'un accompagnement stratégique sur la construction de son projet fourneau, sur sa com, sur l'animation de ses réseaux sociaux, sur du conseil d'administration, en gestion, en structuration, etc. Plus du travail au plateau sur les scènes de Paloma et de V2.
Merci Sébastien pour tous ces détails. En tous les cas, on te retrouvera comme d'habitude pour le dernier plateau, donc demain dimanche à 17h30, donc pour la fermeture et les derniers mots. Tu seras accompagné du nouveau président.
Oui. Tout à fait, voilà. Olivier.
Et Youna Foster, juste pour dire qu'on ouvrira la deuxième émission avec elle à 17h30 tout à l'heure. Donc, merci Seb, très bon festival. Merci. Voilà, on va être rejoint par la compagnie Fatras. Alors, j'espère que le S se prononce, parce que sinon, je commence mal. Il ne se prononce pas. Voilà, je vous laisse vous installer. Et Hugues, je te laisse prendre la main.
Alors, bonjour et bienvenue sur notre plateau. On vous laisse vous installer tranquillement. Vous allez vous produire tout à l'heure à 16h15 à l'ancienne gare pour votre spectacle qui est un mélange à la fois de concert et de théâtre. C'est un petit peu, d'ailleurs, vous avez utilisé un terme un petit peu spécial pour fusionner ça. Ce spectacle parle du milieu carcéral. Il vous est venu lors d'un atelier justement en milieu carcéral du côté de la maison d'arrêt de Laval. J'imagine que c'est faire des ateliers en milieu carcéral, ça laisse des traces et c'est peut-être ça qui vous a donné envie de créer un spectacle autour de ça.
Alors l'idée était déjà là, quand même, elle avait germé avant justement de vouloir se confronter vraiment au milieu pour pouvoir être calé sur ce sujet-là. Et ça laisse des traces, ouais. Quand on se retrouve avec, quand on n'a jamais franchi déjà les portes d'une prison et qu'on se retrouve avec 20 détenus en atelier, sur le coup, on ne sait pas trop ce qui va se passer, puis au final... ça a créé des super rencontres, des super trucs et ça a donné encore plus envie de parler de ce sujet-là.
Musique, théâtre, concert, vous arrivez à trouver le juste équilibre, j'imagine, bien sûr, puisque vous avez trouvé la formule adéquate. Mais justement, comment on fait pour ne pas tirer trop sur l'un et arriver à être en totale symbiose avec toutes vos idées, tout votre travail de mise en scène, on va dire?
C'est le fruit de beaucoup d'ajustements en interne. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de la compagnie qui vient de la musique, qui sont plutôt des musiciens à la base. Et quand on s'est attaqué à l'aspect théâtral, c'est pas forcément un endroit qui est le plus évident pour des musiciens
Laisser la place, on va dire.
Ouais, c'est-à-dire de jouer aussi. Et jouer, c'est pas forcément ce qu'on s'imagine, de jouer des personnages très... enfin, d'avoir des démarches, des tronches ou quoi que ce soit. C'est surtout avoir une attitude de jeu, d'être, de vivre comme si on était le détenu, en l'occurrence. Et donc d'être concerné par ce qui se passe. Et l'équilibre théâtre-musique, il se trouve aussi à cet endroit-là. C'est que même dans la façon de jouer les morceaux, dans les interludes, hors les aspects vraiment théâtraux de réplique et de jeu qu'il peut y avoir, les autres aussi sont en jeu, même en étant silencieux. Et c'est surtout à cet endroit-là que ça devient aussi un concert théâtralisé et presque cinématographique dans la dramaturgie et dans la façon dont les personnages juste existent en étant juste eux-mêmes sans forcément chercher à produire des effets théâtraux, quoi.
Et ce spectacle, c'est le fruit d'envie commune. Votre message, ce que vous avez envie de faire passer, c'est cette idée de casser les frontières entre le milieu de la musique et celui du théâtre, raconter une autre histoire. Alors c'est quoi raconter une autre histoire pour vous ?
Raconter une autre histoire Je ne sais pas si on a réfléchi ça comme ça dans l'idée, parce que le but, c'était vraiment de mélanger musique et théâtre. On avait commencé à le faire sur un ancien spectacle. Et en partant de ce postulat-là, on s'est dit on veut faire plus de comédie. Et on s'est vraiment dit y a un trou, en plus, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en art de rue. Et il y avait vraiment un espace à prendre sur cette partie-là, en fait. Et comme c'était nos envies de faire plus de théâtre en gardant la musique, c'est venu naturellement, en fait, de faire ça. Il n'y a pas eu de... réflexion autre que ça, c'était vraiment naturel pour nous. Bon.
Vous voulez rajouter quelque
chose ? Après, il a fallu justement justifier un petit peu ce côté musical et que la musique ne soit pas là comme ça. Donc, au final, les détenus font un concert. Les détenus font un concert et ce concert-là va pas forcément se passer comme il était prévu. Mais c'est aussi le moyen de justifier justement la musique, c'est que les détenus font un concert.
C'est le thème donc du coup de cette pièce, de ce spectacle. Là, vous jouez dans un cadre, on va dire, dans un festival. Est-ce que vous le jouez aussi en milieu carcéral de nos jours, on va dire, ce spectacle ?
On ne l'a pas fait encore. On est en projet de le faire, là, peut-être au mois de novembre. Là, justement, c'est long parce qu'en fait, faut avoir les demandes, faut trouver des associations qui veulent bien nous accueillir dessus. C'est aussi un budget qu'il faut mettre en place. Et puis, parler de prison en prison, c'est, tout le monde n'est pas forcément... ça dépend vraiment des actions culturelles qui se mettent en place derrière.
Et au sein du groupe, on a des discussions. C'est un peu délicat.
Oui, j'imagine.
Dire. C'est comme si vous alliez faire un spectacle sur des réfugiés ou des migrants dans un camp de rétention ou dans en jouant...
En jouant leur propre histoire.
Ouais, voilà, leur propre histoire qui n'est pas la nôtre. Enfin, bon... au vu de ce que raconte le spectacle, il peut y avoir un intérêt supérieur au fait de juste passer un bon moment de spectacle, puisqu'il y a finalement dans ce spectacle, c'est la rencontre des hommes et derrière leur uniforme, et qu'ils soient du côté surveillant pénitentiaire ou l'uniforme, parce que dans le spectacle, ils ont l'uniforme des détenus, mais l'uniforme imaginaire même des détenus, c'est qu'il y a derrière les rôles institutionnels, on va dire, il y a des hommes. Donc ça pourrait avoir un intérêt évidemment dans ce sens-là, mais au service de quel propos exactement, voilà. Et puis c'est, enfin moi je suis surveillant pénitentiaire dans le spectacle. Arriver en milieu carcéral, jouer devant des détenus, un surveillant pénitentiaire, c'est un peu délicat. Je vois pas trop.
Je comprends. Ouais.
Oui, moi je voulais poser une petite question là parce qu'il y a dans votre texte qui présente votre spectacle là, il y a marqué exceptionnellement ils sont autorisés à donner un concert en semi-liberté devant un vrai public. Moi j'avais envie de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui par exemple lorsque vous avez fait vos ateliers, vous avez été confronté à ça, parce qu'on sait très bien qu'en prison administrativement déjà pour pouvoir pousser une porte, c'est quelque chose d'assez hallucinant en termes de paperasse. Voilà, est-ce que c'est du vécu, est-ce que c'est des choses qu'on vous a peut-être raconté en intérieur, enfin voilà, pourquoi est-ce que ce petit élément qui va venir déclencher j'imagine votre concert se passe en fait?
Alors nous, on a déjà vécu ce truc-là parce qu'on a déjà fait, Mathieu a fait tout un atelier, quand il a fait son atelier avec deux détenus, on a joué après des morceaux qu'ils ont écrits, on avait écrit des textes et les deux détenus étaient là, étaient présents. Ils étaient en semi-liberté sur le concert avec nous, juste pour être là dans le public. Après, est-ce que ça a déjà été fait sinon, je pense.
Ouais,
pas.
Après, honnêtement, sur ce festival-là, ils étaient trois.
Ouais,
les trois personnes, je voulais juste être dehors et bon, assister au spectacle, c'était un plus, mais c'était pas leur envie première. Là, c'est vraiment pour le pitch, en fait, où on est là, on essaie de détenir, on a fait des ateliers des ateliers de musique en prison, et on sort pour la première fois, ça marque aussi cette... on n'est pas des habitués, on est des détenus qu'on fait une dizaine de concerts, non, là c'est le premier, il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose de tellement exceptionnel justement dans le fait de faire ça, et je trouve que ça rajoute un petit peu justement dans l'excitation qu'ils peuvent avoir justement de vivre ce moment, quoi.
Est-ce que vous brouillez un petit peu les pistes dans votre spectacle entre la réalité, la fiction, ou pas forcément ?
Je pense que le début du spectacle brouille un peu les pistes, parce que donc moi j'ai l'autorisation de porter l'uniforme officiel de l'administration pénitentiaire. Donc je suis habillé.
Comme un vrai
voilà. Ah ouais.
Alors certes j'ai un micro tête. On peut se douter de quelque chose, mais pour beaucoup de gens, déjà rien de voir un uniforme, ils pensent que je suis flic ou que je fais la sécu. Donc déjà rien que dans le rapport, même sans rien dire, il y a déjà une attitude. Donc ce moment-là, il est toujours un peu intéressant. Et puis bon, moi je joue le personnage un peu, voilà, un peu dans l'autorité, quoi. Après, une fois qu'il y a un décor quand même sur scène, on voit que c'est factice. Ils ont des uniformes de détenus d'une époque qui ne savait même pas exister en France, je pense.
Non, on a des uniformes du détenu un peu à l'américaine, avec une veste en jean. Et puis,
un peu exagéré.
Ouais.
Donc là, là on voit. Mais bon, je ne vais pas vous dévoiler le pitch, le pitch de début que j'annonce en tant que surveillant pénitentiaire peut semer le trouble sur la tangibilité que des détenus aient suivi des ateliers de musique en prison et soient autorisés à venir faire un concert sous la surveillance d'une équipe de surveillants. Et voilà, après on découvre. C'est un spectacle, de toute façon, les gens savent qu'ils viennent voir un spectacle. Mais...
Et je crois que ça, à certains moments, ça crée le trouble, parce que nous, c'est pas du tout quelque chose auquel on s'attendait ou qu'on cherche à provoquer. Mais encore hier soir, quand on a joué, il y a eu plusieurs personnes qui nous demandent : mais vous êtes vraiment des détenus ? Vous avez vraiment. Ce qui n'est pas trop raccord, parce que si on était vraiment des détenus, bon, déjà, on aurait beaucoup plus de gens autour de nous. Mais bon, ou si on a déjà fait de la prison ou choses comme ça. Et donc, ça prouve que justement, le doute s'installe un petit peu. Quoi.
Une dernière question pour moi. Est-ce que dans votre compagnie, parce que j'imagine bien que ce n'est pas votre premier spectacle, est-ce que vous avez toujours un peu des thématiques comme ça de société ou de théâtre, on va dire, documentaire ? Est-ce que vous êtes toujours attiré par ce genre de sujet ou pas forcément ?
Alors nous, effectivement, c'est notre deuxième spectacle de rue. Le premier spectacle de rue était un spectacle qui était plus basé sur le voyage, où on racontait des histoires de personnages, un spectacle qui a très bien marché. Mais justement, à ce moment-là, quand on a voulu recréer un spectacle, on s'est dit on voudrait vraiment un sujet de fond. Parce qu'à côté, on fait aussi de la scène, on est aussi... la compagnie a une formule scène, donc concert uniquement, et dans beaucoup de nos textes, justement, il y a ces réflexions qui sont menées, il y a des textes... justement engagé sur justement différents thèmes de société. Et ça nous manquait justement dans l'ancien spectacle de rue, et il y avait vraiment cette idée-là justement sur ce spectacle-là d'avoir un sujet de fond vraiment qui nous parlait, quoi.
Merci beaucoup à tous les trois. Donc votre spectacle, c'est 16h15 à l'ancienne gare, donc à l'épreuve des pavés, et donc la compagnie Fatra.
Ouais, voilà, c'est ça. Et si vous nous ratez aujourd'hui, vous pouvez nous voir demain. Demain, il y a aussi, ça dure ici aussi. Donc, bon, il y a un autre festival, mais sinon à Chalon dans la rue la semaine prochaine.
Voilà.
Festival Chalon dans la rue de jeudi à dimanche.
Ah oui, vous enchaînez.
Et voilà, et on jouera là-bas à 17h20, je crois.
Ouais, 17h20, Pastive 20. Voilà.
Vous avez peut-être un site internet à rappeler, ou les réseaux sociaux, comme ça les gens peuvent aller voir. Fatra.net.
Voilà. Et puis sur
retrouver toutes les dates.
/Fatra.
Slash Fatra. Voilà.
Merci beaucoup à tous.
Merci à vous.
Merci.
Eh bien, Ben, on va partir en musique.
à venir. Même une boule de cristal aurait pas pu le prédire. Je suis venu de là où on nous voit pas venir. Le cerveau dans les nuages, le cahier plein de rimes. Hors norme, hors stade. Madame Von Fils s'ennuie à l'école. Un peu blanche, un peu noire. Garçon manqué qui ne veut pas suivre l'école. Mon destin devait m'appartenir. Je l'ai compris quand j'ai su que les morts ne pouvaient pas revenir. Adieu les pères, adieu les proches. Ici c'est l'enfer, mais pourtant je me sens béni. Je suis sur les routes, sur scène, non-stop dans mon inspire. Connexion constante. On a rien sans rien, on devient ce qu'on pense. C'est Dieu qui donne, mais c'est l'homme qui doit prendre. Ça y est, on paye l'addition, même si elle est salée. Ça y est, c'est maintenant qu'ils veulent s'allier. Ce sera non, non, les vrais sont là depuis des années. Chacun son temps et je suis toujours à l'heure, ça c'est mon côté suisse. Maman regarde, moi je vole. Aïe 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 aïe. Maman regarde, moi je vole. Plus haut que le sky, aïe 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 aïe. Internet fait croire que je débute, je suis passionné, je lutte. Rester humble c'est obligatoire. Le sommet de la gloire c'est le début de la chute. Grossi, trop ça, bébé je suis juste moi-même. De quoi t'as peur, je suis hostile quand on me froisse. La fleur au fusil, je suis en guerre à contre-coeur. Africaine qui a perdu ses racines. Je m'en souviens chaque fois que c'est la semaine contre le racisme. On maîtrise la langue de Molière, ma salive coûte cher. Et ma sueur encore plus, devant 10 ou 1000 sur... Je rappe pas, moi je performe, j'aime cette merde plus que moi-même encore. Dans la cabine que des traces et les billes sans arrêt. Je m'arrêterai quand j'aurai plus de bouche pour parler. Le produit a marché, envisage même pas de comparer. Nous ça fait longtemps qu'on fait la queue dans le fond du tunnel. La lumière est proche, je suis avec la team, on peut plus reculer. Maman regarde, moi je vole. Aïe aïe aïe.
Catégorique sur les ondes des radios associatives. Et oui, on est toujours ici installés en public et en direct pour la première émission de la 29e édition des Transévenols. Eh bien, on va continuer cette émission avec Guilhem qui nous a rejoint. Bonjour à toi.
Bonjour.
Ça faisait un petit moment que tu n'avais pas eu sur les ondes, en tout cas de Radio Escapade.
Justement, je suis parti par Mons et Parvo.
Eh oui. Alors, je le rappelle, hein, on est avec Radio Bartas, Campus Montpellier et Radio Système tout le week-end. Alors, Guilhem, tu es venu présenter un film documentaire.
Oui.
Qui se nomme « Mon oncle Griffon ».
Tout à fait.
Alors, j'avais envie, déjà, la première question, c'est voilà, ce côté un petit peu intime. Pourquoi est-ce qu'on va, à un moment donné, s'intéresser à un sujet de famille ?
Alors, il faut savoir qu'au départ, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'étais programmateur du festival de oui. La salle Doc Seven.
Festival international du film documentaire.
Tout à fait. Et il se trouve que mes envies de faire du documentaire poussaient d'année en année. Et en 2015, j'étais parti en repérage pour un projet un peu trop audacieux, je pense, maintenant avec du recul, sur l'île de Pâques, pour parler du changement climatique et de la mondialisation. Bref, et en rentrant de ce voyage, je discute avec mon oncle... parce que je vais souvent voir ma famille dans les Cévennes, mais lausériennes, un peu d'exotisme aussi, là, de l'autre côté. Et il me dit comme ça, tiens, là, je commence à réfléchir à prendre ma retraite bientôt. Voilà, pour l'instant, on n'a pas trop de projets, on ne sait pas trop, mais il va falloir quand même qu'on trouve une solution, parce que moi, vers 65 ans, je vais partir, quoi. Puis je me suis dit, mince, ça fait depuis tout petit que je grandis dans cette ferme. Toutes les vacances, j'y passe au moins une fois. Et je me dis, mais c'est fou, je pars à l'autre bout du monde faire des images et je suis pas foutu d'avoir une image de la ferme familiale où tout plein de choses se passent tout le temps. Enfin, pour moi, c'était tellement immuable que c'était impossible que ça s'arrête. Et en fait, c'est vrai que ça a été un électrochoc. Je me suis dit, bon, on va quand même aller filmer. J'ai mobilisé deux potes avec moi, on est parti filmer, mais c'était vraiment dans l'esprit de capter la ferme telle qu'elle est. Enfin, il y avait une idée de vraiment faire un truc court sur deux semaines, trois semaines de tournage et faire un petit court-métrage, mais il n'y avait pas de prétention autre. C'était que des... Enfin, les deux autres étaient étudiants encore, moi je bidouillais, enfin, c'était vraiment un projet vraiment amateur. Puis, en fait, rien ne se passe comme prévu, ça devient épique, donc je ne rentre pas en détail, je ne vais pas spoiler le film, mais c'est, oui. pour ça que c'est une série, hein. Il y a de la matière pour une série, c'est qu'en fait, de fil en aiguille, il se passe des choses, puis des choses, puis des choses, et en fait, je me rends compte que en fait, l'avenir de beaucoup de choses en fait, au niveau familial pendent à l'avenir de cette ferme. C'est-à-dire qu'en fait, si ça finit mal plus que pour une entreprise, c'est aussi le hameau, c'est aussi...
C'est
la vie familiale,
c'est
en cascade en fait, et je me rends compte de l'impact. Il y a un petit spectacle.
Ouais, mais ça c'est l'ambiance du festival. Hein.
Et donc effectivement c'était cette peur de voir tout s'effondrer qui m'a maintenu en haleine quelque part avec l'idée de coûte que coûte on va continuer à filmer, tant pis. Parce que au pire ça sera un témoignage de la dureté du métier d'agriculteur aussi quoi. Alors fort heureusement ça finit pas trop mal, mais on va pas spoiler.
Oui, parce que je l'ai pas dit, attends, excuse-moi, Luc. Effectivement c'est 5 épisodes, hein. Donc samedi il y a le premier et le second, et dimanche on aura l'occasion de découvrir l'épisode 3, 4 et 5.
Tout à fait.
5 épisodes de 25 minutes, hein, c'est bien,
ouais,
ça
25 Exactement. Minutes.
Justement, vous l'évoquiez à l'instant, finalement, ce documentaire, il va se transformer en une espèce de témoignage de la difficulté du monde agricole, déjà d'une part, dans votre cas. Est-ce que cette ferme va être reprise ? Tous les enjeux qu'il peut y avoir au niveau de la population locale, c'est-à-dire une ferme, c'est aussi quelqu'un qui produit éventuellement des fruits, des légumes, il y a tout le bétail, etc. Et puis aussi la difficulté du monde agricole tel qu'il est aujourd'hui, ses exigences, les difficultés financières, bien sûr, et l'avenir, c'est trouver des repreneurs, trouver des jeunes qui vont s'engager et reprendre une exploitation. C'est là véritablement l'enjeu aussi de votre documentaire, c'est un vrai témoignage.
C'est ça, c'est qu'en fait, on tournait sans vraiment savoir ce qui allait se passer. Enfin, le tournage a duré 5 ans et demi quand même.
Ah oui.
En plus, assez rapidement, le griffon, je spoil une question qui n'a pas été posée.
On y arrive.
Mais le griffon, c'est parce qu'en fait, c'est un peu le nom en vieux français pour les vautours. Et dans les Cévennes, vous savez que les vautours sont une espèce endémique. Il se trouve que assez rapidement, la cohabitation entre les vautours et l'exploitation est devenue une évidence dans la ferme, et c'est devenu aussi une métaphore de tous les enjeux, c'est-à-dire à la fois les menaces qui planent, mais aussi cette espèce de matrice du renouvellement, parce que les vautours sont là pour manger les carcasses de bêtes mortes de la ferme parce qu'on est dans le parc et que c'est autorisé. Enfin, donc il y a tout un enjeu autour de ce rôle humain vautour, cette symbiose quelque part, qui s'est greffé dessus, qui est devenu un peu l'échelon poétique de tout ça. Avec cette incertitude qui a plané quand même pendant une grosse partie du tournage, y compris avec le Covid qui a été un moment clé aussi, je le dévoile pas. Voilà.
Et est-ce que cet oncle, du coup ça a duré 5 ans et demi, oui. tu viens de le dire, est-ce que cet oncle il a eu aussi un peu une mémoire, est-ce qu'il y a des choses qui ont été révélées à force de le filmer?
Ah bien sûr.
On évoque aussi le climat, enfin voilà, sans spoiler,
je peux quand même dire quelque chose d'important, c'est que le monde agricole c'est quand même un monde un peu taiseux, c'est-à-dire on ne va pas parler réellement de soi. Donc mon oncle avait quand même un discours un peu militant parce qu'il a fait, il était à la Confédération paysanne à une époque. Donc il a un discours militant très posé, mais il n'a pas facilement une tendance à parler de lui personnellement.
Il y a beaucoup de pudeur dans le monde agricole.
Et donc ça a été une parole qu'il a fallu vraiment libérer. Et effectivement, ça prend du temps. Mais quand je dis mon oncle, c'est réducteur. J'ai appelé le film Mon oncle Griffon, mais en fait c'est la famille. Il y a l'associé de mon oncle, il y a mes cousins, il y a tous les gens qui sont passés par la ferme, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est passé par la ferme. Enfin, c'est pas juste le témoignage de mon oncle, c'est aussi un témoignage multiple, et avec des crises qui ont été assez graves, des gens qui ont claqué la porte. Enfin, mais tous ces témoignages, j'ai réussi à les collecter, parce qu'il y a une confiance quand même, une bienveillance qui était présente et qui était permise par le fait que je faisais quand même partie de la famille. Alors c'est à double tranchant parce que j'avais très peur la première fois que j'ai présenté le film à la famille de recevoir une fin de non-recevoir et puis voilà la fin de l'histoire.
Et est-ce qu'il est présenté, projeté pour la première fois ici au Transévedal en public ?
Alors c'est pas la première fois, mais par contre ça sera la première fois que vous aurez la version avec le mix final, le talonnage final, les génériques, parce que cette version vraiment bon, prête à diffuser pour un diffuseur télé, donc n'était pas encore prête jusqu'à il y a quelques jours.
Merci beaucoup, c'est bon pour toi Hugues ?
J'ai rien à rajouter.
Super.
Je te remercie.
Alors, on va découvrir donc l'épisode 1 et 2 à 15h10 à la salle Ferrier, ici à Sumène. Donc, mon oncle Griffon.
Et juste une précision, ouais, pour celles et ceux qui ne pourraient pas être là cet après-midi, pas d'inquiétude, on fera un petit résumé des épisodes 1 et 2 avant les épisodes 3, 4, 5. De toute façon, il y a un énorme nœud narratif vers le troisième épisode, donc ne vous inquiétez pas.
Ok. Donc demain, pareil, c'est toujours 15h10, donc toujours à la salle Ferrier pour les épisodes 3, 4 et 5. Merci beaucoup.
Merci.
On a été rejoint par la compagnie enragée pour le spectacle Le Prénom, Mariem et Louve. Bonjour à toutes les deux.
On est la colombe enragée.
J'ai dit quoi ?
La compagnie enragée. Ça peut marcher.
Des fois, on est des colombes aussi.
Désolée. Élise, je te laisse là-bas.
Oui, bien sûr. Du coup, bienvenue sur ce plateau. Hein. Ça nous fait plaisir de vous recevoir.
Merci.
Aujourd'hui, vous êtes venue pour nous présenter votre pièce Le Prénom que vous allez jouer aujourd'hui à 18h et aussi dimanche à 16h30 dans la cour de l'école publique. Donc Le Prénom, c'est une pièce qui mêle danse et oralité, qui retrace d'ailleurs vos racines ivoiriennes et judéo-algériennes, mais aussi un peu l'impact de la colonisation qu'il y a eu. Comment est née cette idée justement de créer une œuvre qui mêle danse et parler autour de ces questions-là ?
Déjà, on est une compagnie qui depuis longtemps utilise la parole. Enfin, nous, on est principalement des danseuses et chorégraphes, quoi. Donc on travaille avec le corps, mais comme on travaille en espace public, en fait, assez spontanément, avec les gens qui sont dans la rue, il y a forcément un dialogue qui est autre que par le corps, puisqu'on on parle avec les gens pour savoir si on peut se mettre là, pour les gens qui s'interrogent sur ce qu'on fait. Donc, l'oralité est vite arrivée dans notre travail artistique. Ensuite, on a travaillé avec une rappeuse pendant plusieurs années sur une pièce qu'on a fait avant Le Prénom. Et donc du coup, c'est devenu vraiment une habitude d'utiliser la poésie, l'oralité. Et dans ce spectacle-là, en fait, moi, donc c'est mon histoire à moi, et j'ai voulu renouer aussi avec d'autres formes que l'écriture, et notamment sur ces questions-là de transmission. Et donc dans les transmissions, moi, j'ai mes deux parents qui sont africains, dans ces transmissions-là, ça se passe beaucoup par l'oralité, et la migration et l'assimilation a coupé le lien à l'oralité, a coupé, et aussi avec une notion de c'est en dessous, l'oralité c'est moins important que l'écriture et du coup c'est pas bien de le faire. Donc il y avait un peu cette envie de renouer avec, on reprend la parole, on se raconte des histoires, on se retransmet des histoires, donc on utilise ce biais-là en le liant à la danse qui est un peu mon outil de base. Voilà.
Et comment vous arrivez à trouver justement cet équilibre entre la parole et le mouvement dansé qui est aussi très expressif et qui transmet aussi énormément d'émotions ? Comment vous arrivez vraiment à faire la part des choses entre ces deux parties de communication ?
Je pense que je n'ai pas énormément réfléchi à comment trouver un équilibre. Ça s'est fait assez spontanément. Les moments où j'avais envie de parler, les moments où j'avais envie que ce soit le corps, c'est venu comme ça et j'ai gardé en fait. Il y a des moments où c'est les deux aussi. Et il y a aussi dans le spectacle, on utilise des enregistrements audio de mon père, de la famille, j'ai aussi enregistré moi. Du coup, il y a différentes formes d'oralité, c'est pas juste direct, quoi. Il y a aussi des choses enregistrées. C'est un peu comme des formes d'archives en fait aussi. Tout ce qui est enregistré. Et ça, c'était lié aussi à l'histoire familiale. Enfin, voilà.
Et justement, voilà, vous utilisez aussi beaucoup d'objets extérieurs. Vous parlez là de messages. Il y a aussi des photos, si je ne me trompe pas, des petites capsules. Vous parlez aussi à un moment donné d'un mouchoir de votre grand-mère. Est-ce que tous ces objets extérieurs qui sont ramenés au sein de la pièce, c'est aussi une manière de sensibiliser le public à une histoire un peu plus collective, un peu plus universelle ?
Oui, ça peut. C'est aussi qu'est-ce qu'on a gardé de son histoire. Donc, je pense que ça touche tout le monde. On a tous... moi, c'est la théière de ma grand-mère, mais tout le monde a quelque chose qui reste de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents, les photos de famille. Et aussi, pour les enfants d'immigrés comme nous, il y a tellement de choses qui ont disparu que la moindre chose, c'est hyper important. Et du coup, c'est aussi ce truc-là, voilà ce qui me reste. Et je vais le chérir... Donc oui, c'est collectif, mais aussi collectif sur la question de la migration et de qu'est-ce qui a disparu en fait en venant en France et en s'assimilant aussi.
Il y a dans le dossier de presse, vous dites que le prénom est aussi une tentative de réparation d'une chaîne brisée. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous, cette tentative de réparation de chaîne brisée ?
Alors, c'est... l'idée de se réapproprier son histoire et de, comme il y a énormément de trous dans la mienne, d'avoir en fait de rendre les choses positives aussi, de se dire ah ben il manque mais ça fait partie de mon histoire et je vais trouver des liens et je vais trouver des bouts et j'ai plein de fragments mais ces fragments là en fait ils peuvent être chouettes aussi, c'est pas que des choses négatives et aussi de me rendre compte que mis bout à bout il y a beaucoup de choses finalement. Donc oui, c'est réparer quelque chose qui, en fait, aussi remettre en valeur, remettre en visibilité des choses qui sont effacées et mises de côté, et en être fier aussi. Donc je pense que c'est aussi ça, la réparation. Et je pense que c'est aussi, les gens qui viennent voir le spectacle et qui sont concernés par ces questions peuvent témoigner de ça. Mais par exemple, mes parents, ma famille, ça a été le point de départ de discussion sur notre histoire, par exemple, le fait de voir le spectacle, de pas passer par juste on discute à table, mais en fait, c'est un autre biais, l'art aussi, ça réveille d'autres choses. Donc ça peut être un point de départ de discussion, ça peut être un point de départ de recherche, etc.
Et toi, Louve, comment on se positionne, comment on s'approprie un peu cette histoire quand même qui est très intime hein, de Myriam. Voilà, comment est-ce que toi, tu es arrivée dans ce projet ?
Alors moi, mon boulot, c'est d'être chargée de production et de diffusion. Donc c'est moi qui porte le spectacle auprès des professionnels, entre guillemets, de la culture, de comment qui est intéressé pour le programmer, qui veut s'emparer de valoriser cette histoire, etc. Donc moi, je suis vraiment en soutien. Je ne m'approprie pas du tout cette histoire. Au contraire, je la porte et je fais en sorte qu'elle puisse encore plus exister. Comment ça... Enfin, en fait, avec Myriam, on s'est grave bien trouvé. Enfin, c'est aussi non, mais c'est vrai, c'est une trop belle rencontre. Moi, j'ai rejoint la compagnie il y a 3 ans maintenant.
4 ans, je pense, mais ouais, bon.
Peut-être 4 maintenant. Mais du coup, je suis arrivée en cours. Le projet, il était déjà bien fort, quoi. Et juste moi, ça m'a beaucoup beaucoup touchée, ça m'a beaucoup parlé et j'avais envie de faire ma part en tant qu'alliée, en fait, tout simplement, de pouvoir faire en sorte que la voix de Myriam et la voix des autres personnes de la compagnie, elle soit entendue, elle soit visible, elle soit portée. Et aussi je fais un peu tampon quand même, et ça, je pense que c'est utile parfois.
Alors ça va m'intéresser, c'est-à-dire tampon. C'est-à-dire en termes de public, en termes de programmateurs
Les deux.
Ouais,
ouais.
Moi, je connaissais un petit peu la réponse.
oui, on est quand même dans un milieu artistique qui est fondamentalement blanc. On grandit dans un système qui est raciste, même si on n'a pas envie de l'être. Et du coup, parfois, les choses nous échappent un peu. Et moi, je suis là pour un peu faire « Ok, la petite balle de ping-pong va aller de l'autre côté. »
Et puis pour le public, ben, on a, c'est rarement intentionnel, c'est rarement vraiment du racisme moral, comme on va dire, dirigé directement de manière frontale. Mais ça peut faire tout aussi mal quand c'est insidieux et quand c'est un peu du racisme ordinaire. Et du coup, ben, on est en team à la fin et on reste ensemble. Et si jamais je sens que ça fait un peu trop pour Mariem, ben, je viens peut-être un peu dévier la conversation ou s'il y a besoin de faire un peu de pédagogie, ben, c'est moi qui vais récupérer le bébé, quoi.
Parce que Mariem, ça t'arrive souvent que le public, après le spectacle, vienne discuter avec toi, échanger? Ça arrive tout le temps.
Ouais. Alors, il y a deux types. Il y a les personnes qui sont complètement concernées par le sujet, donc qui sont dans l'émotion et qui viennent partager « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça, tout ça ». Puis après, il y a les autres qui sont soit en choc, soit qui ont besoin de déverser un truc, ou des gens qui viennent juste dire « Ah, c'est chouette ». Mais il y a aussi ce besoin, et je pense qu'il n'y a pas assez d'espace pour parler de ça. Il n'y a pas assez de spectacles programmés qui parlent de ça. Donc du coup, il y a un truc aussi de vouloir absolument en parler et que ce soit moi le réceptacle de tout, puisque je viens de faire 55 minutes d'en parler de ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, la fin du spectacle. C'est il faut absolument qu'on continue de parler de ça, qu'on ait toutes les interrogations. Et moi, je pense que je n'ai pas apporté tout ça. Je pense que j'ai fait ma part. Et qu'il y a aussi, après, il y a plein d'autres endroits pour en parler. Il y a plein d'autres endroits, plein d'autres choses à lire, à écouter. Et puis que ça peut être une graine pour discuter et continuer la réflexion. Mais que c'est vrai que souvent, ça donne un élan. Et puis comme, en fait, pendant le spectacle, je parle aux gens, du coup, il y a un truc de rapport très, très proche où on a envie de continuer la discussion, je pense. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que peut-être vous avez des réseaux sociaux ou un site internet où on peut suivre un peu l'actualité des colombes enragées?
Oui, bah, y a notre site est en cours en ce moment.
De refonte.
Du coup, il faut aller sur le Linktree qui s'appelle Compagnie la colombe enragée, ou l'Instagram ou le Facebook, c'est Compagnie la colombe enragée. Voilà.
Eh ben, super. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc le spectacle est à 18h, cours de l'école publique.
Ouais. Et 16h30 demain.
Et 16h30 demain. Super, merci beaucoup.
On est à l'ombre, venez. On a mouillé le sol pour vous exprès.
Non, mais ça, c'est un argument de marque. Hein.
Bah oui, je sais, c'est pour ça que je le dis.
Bon spectacle, bon festival à toutes les deux.
Merci.
Eh bien, Ben, on part avec catégorique.
Mais qui m'appelle, la flamme, j'accroche le deck. Où sont ces maudits-là, ceux qu'attendent mon échec? Même ton padre connaît, il t'a conçu juste après mon concert. Petit, si tu veux du love, commence par poser du respect. J'rends comme si Arafat n'était jamais mort. Fat Poussi Moufa, ça t'approche pas sa mort. Ils ont pas de valeur, c'est des vauriens. Ces rappeurs devraient s'appeler Rimarien. On fait le même taf mais on se ressemble pas. Fumer l'énergie comme Sampa. Éduqué chez Madame Sampa. Pas né, celui qui me fera faire quelque chose que je sens pas. Y'a que les forts qui survivent, pourtant même eux se cachent pour pleurer. J'rappe comme si Angela Davis et Thomas Sankara avaient un bébé. Esprit libre mais prisonnière de la célébrité. J'peux pas me plaindre sur tout ce qui m'arrive, c'est mérité. Mais qui m'appelle, la flame, j'raccroche le tel. Où sont ces maudits-là, ceux qu'attendent mon échec? Même ton padre connaît, il t'a conçu juste après mon concert. Petit, si tu veux du lore, commence par poser du respect. Attention dames et messieurs, c'est maintenant que ça va commencer. Tout est carré depuis que j'ai tiré un trait sur son dossier. Bras fort, tu sais comment c'est. Femme noire toujours concentrée. Avant je voulais changer le monde, depuis je graille des MC pour compenser. Je vise la suite, c'est bien trop petit la Suisse. J'avais pas que j'allais m'exiler deux fois, c'est le prix de la réussite. Dans la vie, soit c'est noir, soit c'est blanc, soit le reste. Moi je prends l'option où personne pourra me mettre en l'aise. Mais qui m'appelle, la fame, j'raccroche le tel. Où sont ces maudits-là, ceux qu'attendent mon échec? Même ton padre connaît, il t'a conçu juste après mon concert. Petit, si tu veux du love, commence par poser du respect.
Attends-y. Tous les autres là, ça m'est petit. De vrai 2025, on va pas trop loin.
Catégorique à découvrir ici au Transévenol, donc ce soir sur la grande scène au parc Lucie Aubrac. Nous sommes toujours en direct et en public ici avec Radio Bartas, Radio Système, Campus Montpellier et Radio Escapade. Eh bien, cette émission, on continue avec Pierre. Salut Pierre.
Salut, bonjour. Bonjour à tous.
Alors Pierre, tu es bénévole ici hein, au Trans-Cévenol et tu t'occupes donc de la parade à vélo qu'on a pu donc voir tout à l'heure à midi ici sur le plan. Donc l'arrivée avec ensuite la fanfare Les Cadors qui a enchaîné. Alors cette idée de parade à vélo, donc c'est, il me semble, la troisième édition.
Exactement.
Voilà. Et tu veux un petit peu nous dire l'idée de départ, voilà pourquoi est-ce qu'il a été proposé de faire un départ de Ganges à vélo avec le public ici jusqu'au plan.
Oui, ben c'était encore une fois hein, pour prendre un petit peu et essayer de montrer qu'on pouvait faire aussi la mobilité douce en milieu rural, essayer de prôner ça, de dire que c'est possible, essayer aussi de valoriser le territoire avec la voie verte, qu'on espère voir s'agrandir de plus en plus pour que les gens se motivent à venir dans nos terres cévenoles. Et aussi pour les locaux, pour la mobilité douce, pour que les gens aillent travailler, notamment à Ganges. Ou pourquoi pas un jour au Vigan, qu'on arrivera à ouvrir une voie verte jusqu'au Vigan, qui sait. Mais on espère ça, et puis ça s'agrandit, et c'est un projet à la fois communal. Enfin voilà, ça commence et ça se projette, et on trouve ça plutôt sympa. Et on voulait jumeler ça à un côté un peu festif, d'où les Rosalies, d'où la musique. Et notamment, ce qu'on fait habituellement, et je voulais passer un petit message à Fab, je ne sais pas s'il nous écoute.
Oui, il nous écoute.
Et s'il nous écoute, Fab, on a pensé à toi, beaucoup de gens ont pensé à toi.
C'est sympa, Pierre.
Et on est avec toi, et puis tu nous manques, et ça a manqué à beaucoup de gens, parce qu'ils trouvent ça vraiment très bien. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, merci pour les morceaux. Ça a à peu près marché, on a fait le DJ roulette plutôt que la radio roulette, mais on t'attend de pied ferme l'année prochaine.
Merci Pierre, parce qu'effectivement Fabien, donc, mon collègue à Radio Escapade, habituellement s'occupe de la musique et gère la partie directe sur cette parade. Alors comment ça s'est passé ce matin? Est-ce que t'es content?
Alors, ouais. Écoute, tu sais, l'année dernière, on a tout eu. On a eu la pluie,
oui.
On a eu une Rosalie qui a crevé. La radio ne marchait pas vraiment avec ses intempéries, avec les tunnels. Enfin, c'était incroyable. Et pourtant, les gens étaient là. Voilà, on était une cinquantaine et quoi qu'il arrive, les gens ont voulu la faire. Donc je savais que ça allait marcher cette année. Cette année, c'était plutôt facile. On a le soleil, on a tout qui fonctionne. Et on a failli arriver à la bonne heure. On est arrivé 4 minutes en retard par rapport à la fanfare. On va y arriver. Une année, on va y arriver. Voilà. Donc oui, ça a bien été.
Et un petit peu pour comprendre un petit peu ce qui se passe en amont, donc toi, tu es bénévole, hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc tu t'occupes de cette parade. Alors ça veut dire quoi un petit peu le travail qui est fait en amont pour après le jour J arriver effectivement avec tous ces vélos, la Rosalie ici sur le plan?
On a fait quelques réunions, des travaux d'art plastique si je puis dire, pour essayer de préparer, le but étant qu'on fasse une activité où on partage avec des festivaliers ou des bénévoles et où ça nous coûte quasiment zéro. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que bon, si on pouvait payer des gens, mais en l'occurrence on trouve des bénévoles, on trouve des assos qui s'engagent aussi avec nous, donc ça travaille le tissu social dans notre village, avec les commerçants aussi, parce qu'il faut savoir que Yves de la Place nous prête ses Rosalies gratuitement, il nous aide, voilà, nous on essaye de les retaper aussi, parce que des fois elles ne sont pas forcément en forme et des fois on n'y arrive pas, mais bon, en tout cas il y a une petite entente là-dessus et très cool avec nous. Il y a Sésame aussi qui est à la recyclerie, qui nous passe des vélos tout le long du festival à disposition pour bénévoles et festivaliers. D'ailleurs, vous trouverez, que ce soit à l'accueil public ou pour les bénévoles, au coin bénévole au Digue-Don, des vélos en libre service. Et du coup, ils servaient pour la parade à vélo aussi. Donc voilà, indirectement, c'est ça aussi. Essayer d'investir un peu tout le monde, essayer de créer un lien avec toutes les associations du coin. Quoi. Ouais.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci à vous.
Merci d'être venu sur le plateau radio pour nous présenter la parade à vélo. On dit du quoi l'année prochaine pour les 30 ans?
À l'année prochaine, il y aura encore, là cette année on a fait les 50 mètres mini-vélo qui ont été une franche réussite, c'est très absurde. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, envoyez-nous vos idées et on les fera, il n'y a pas de problème. Merci.
Merci Pierre. Alors on va terminer cette émission avec un petit peu la programmation à partir de 15h ici à Sumène pour les Trans-Cévenols. Donc à 15h, vous avez la compagnie K.O. Canem avec le spectacle Les Assiettes de Mamie Vedette et c'est à la cour de l'école Saint-Joseph.
À 15h10, il y aura la projection documentaire Mon oncle Griffon, l'épisode 1 et 2 à la salle Ferrier.
15h30, Elisa Giomino avec la compagnie du Vent sous les semelles. C'est à la place du Plan et c'est en déambulation.
Ensuite, à 16h15, il y aura l'épreuve des pavés de Sifatra à l'ancienne gare.
À 17h30, le vaillant petit tailleur avec la Radical Fantasy, c'est au parking de l'ancienne maison de retraite.
Ensuite, à 17h30, un nouveau plateau radio en direct.
On se retrouve
avec nous. Avec nous, exactement, à la place du Plan, hein, côté Grand Pont.
Voilà, à 17h30, le Muppet Rhapsody avec la compagnie Anonima Teatro, ici, place du Plan, côté pelouse.
Ensuite, à 18h, le Prénom à la cour de l'école publique par la compagnie La Colombe Enragée.
18h30, on retrouve la fanfare Les Cadors, ici sur le Plan.
Et à 19h15, il y aura l'Orque et l'Orque sur la place du Plan aussi.
Voilà, et l'ouverture des portes pour le parc Lucie Aubrac, c'est à 19h45. Et le premier concert à 21h avec Una Foster.
À 22h20, il y aura Catégorique.
Et à minuit, on retrouve Antès et Mazès. Merci beaucoup, Hugues, Radio Système, Élise, Campus Montpellier et Ben Radio Bartas en technique pour cette première émission. On se retrouve sur les ondes à 17h30.
Sévenol. Plateau en direct. Eh oui, il y a des plateaux en direct. Eh oui,
des plateaux en direct.
Eh oui, des plateaux en direct. Je suis à fond.
Ouais, mais c'est à moi, là.
Oui.
Outrance, Sévenol. Assumène.